Bienvenue dans le monde de la beauté avec les podcasts. Mais qu'est-ce que la beauté? C'est une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir, disait Stendhal. Bienvenue à vous dans le 8e podcast beauté. Avant tout, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter les podcasts. Contrairement à ce qu'on peut penser, et en ayant regardé les statistiques, vous êtes autant de femmes que d'hommes à les écouter. C'est une assez bonne surprise et assez étonnant, mais je suis ravie. Je suis aussi très heureuse de faire ces podcasts car j'adore échanger. Cela me permet également de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger autour de métiers que je connais moins, même si bien sûr ça tourne autour de la beauté, mais pas que. D'ailleurs, après avoir été en écoute sur SoundCloud, les podcasts sont également disponibles sur le podcast iTunes en tapant simplement Podcast Beauté. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Je tiens également à préciser, et après avoir reçu quelques questions, que ce sont bien sûr des podcasts à titre personnel. J'interview, je monte et je mets en ligne toute seule. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes chez Emma à République à Paris. Elle m'a gentiment proposé de faire ce podcast au calme dans son salon. Nous sommes le 5 février et il neige dehors à Paris. Je ne connais pas Emma, à vrai dire c'est la première fois que nous nous rencontrons. Une connaissance dans le milieu du cinéma nous a mis en contact. Emma travaille dans la beauté. Elle est maquilleuse de cinéma depuis 15 ans. Heureusement, j'ai pu regarder son compte Instagram pour m'inspirer avant de la rencontrer. Bonjour Emma, merci de m'accueillir chez toi. C'est sympa que Steph nous ait mis en contact. Bienvenue dans mes podcasts Emma.
Merci beaucoup.
Emma, tu peux dire à nos auditeurs qui tu es en quelques mots, même si j'ai déjà dit quelque chose sur toi auparavant?
Alors, je suis maquilleuse de cinéma. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu. J'ai commencé quand j'avais 19 ans, donc j'étais assez jeune. Je suis arrivée dans ce milieu un peu par hasard, enfin même complètement par hasard. Et le premier film que j'ai fait, j'étais stagiaire et c'était Re d'Alain Chabat et des Robins des Bois.
Ah oui ?
Et voilà, et comme c'était un très gros film avec beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire, j'ai rencontré plein de chefs maquilleurs, parce qu'il y a les chefs maquilleurs, les créateurs et puis les assistants et puis les stagiaires. Et ma carrière s'est faite comme ça.
D'accord, c'était ton premier film avec Alain Chabat.
Absolument.
Une bonne rencontre, je suppose.
Absolument, et surtout, de rencontrer plein de gens qui faisaient partie de mon enfance, quoi.
Oui, en plus. Ouais. Comment donc tu es arrivée dans ce métier de maquilleuse? En fait, je voulais dire, as-tu une formation? Parce que là, tu dis que tu es arrivée par hasard dans ce milieu.
Oui, je suis arrivée par hasard par la connexion.
Oui.
Mais sinon, j'ai passé un bac art plastique.
Oui.
Et après, j'ai fait une école de maquillage.
D'accord, donc tu voulais quand même faire du maquillage.
Oui, ouais, absolument. Ouais. Ah, oui, après, c'est par hasard, parce que vouloir faire du maquillage à 18 ans, évidemment, ça n'a aucun rapport avec l'idée que je m'en faisais.
Ouais, j'imagine.
Vraiment.
Dans le cinéma, du coup, tu maquilles. Tu es maquilleuse de long métrage, court métrage. Comment ça se passe exactement?
Alors, en général,
télé.
Quand on commence par des courts métrages qui nous donne des contacts, et avec un peu de chance, on fait du long-métrage. Mais moi, comme je le disais, j'ai commencé par du long-métrage.
Ouais.
Donc, j'ai fait quasiment que du long-métrage.
Ouais, voilà. Tu peux nous citer quelques films dont tu as fait partie?
Mais à 23 ans, j'ai eu la chance de devenir chef, ce qui est assez tôt.
Oui.
Voilà, pour Sylvie Vered, qui fait du film d'auteur.
D'accord.
Et donc, c'était Stella, un film avec Carole Rocher et Benjamin Biolay. Et voilà, et depuis je fais tous ces films, donc ça c'est pour ma carrière où je suis quelqu'un, où elle me suit aussi, et voilà. Et j'ai fait après du coup un film avec Peter Doherty, Charlotte Gainsbourg, etc. Donc c'est quelqu'un d'important dans ma vie, dans ma carrière. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de films. Ah, j'ai travaillé sur Clo-Clo un peu, enfin quelques semaines, et c'était super. J'adore les films d'époque parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et j'aime autant les films contemporains parce que le maquillage contemporain, c'est quelque chose de très subtil. Autant que les films d'époque, mais les films d'époque, c'est des choses très spécifiques par rapport à des contextes, etc. Les films contemporains, c'est les personnages, on les crée de façon très, très subtile et c'est hyper intéressant à créer parce que nous, on sait pourquoi on pose le blush de telle façon et il n'y a que nous qui le savons probablement, mais ça amène quelque chose et ça ne se voit pas.
Ouais. Dans le cinéma, du coup, on va rentrer un petit peu plus en détail sur le maquillage et la beauté, vu que c'est des podcasts beauté. Est-ce que tu as une astuce pour que les actrices ou les acteurs aient un teint impeccable ?
Très honnêtement, l'astuce pour avoir un teint impeccable, c'est de manger sainement.
Non, mais c'est bien de le dire.
C'est le seul truc que je peux dire, c'est franchement de manger sainement et d'avoir une vie saine. Ça va avec, quoi.
Ouais.
Et il n'y a pas de miracle. Si, après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui marche assez bien, c'est de mettre une crème anti-acné de façon très, 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 très légère le soir avant de se coucher, parce que ça lisse le teint.
D'accord. Par exemple, quelle marque tu en as ?
Peu importe, chez La Roche-Posay ou un truc qui, voilà, qui... Sauf pour les peaux très sèches, évidemment. Hein. Mais pour une peau mixte ou une peau normale, ça resserre tous les pores.
Étant donné que tu es dans le milieu du maquillage cinéma depuis très longtemps, est-ce que tu as quand même des indispensables, des produits indispensables que tu as toujours avec toi sur un tournage ?
J'ai toujours du blush.
Du blush.
Et c'est des blushs sanguins, parce que comme la peau est constituée de sang, de rajouter des rougeurs ou d'enlever des rougeurs, c'est ce qui fait notre travail, en fait. Et un blush, on peut le mettre en rouge à lèvres, on peut le mettre en fard à paupières, on peut le mettre en blush. On peut créer de la transpiration, d'un effet de chaud avec du blush. Enfin, il y a mille possibilités. Et un bonne mine ou creuser quelqu'un. Enfin, voilà, c'est vraiment, je trouve, un outil multiple.
Alors ça, c'est pour toutes les auditrices qui vont nous écouter, hein, pas forcément dans le milieu du cinéma. Une astuce réellement magique en maquillage, quelque chose qui fait toute la différence.
De faire des lumières.
Les lumières. Ah, ça, c'est pour les selfies.
Non, même pas. Mais oui, aussi.
C'est important pour les selfies.
Mais en fait, c'est de savoir se sculpter. C'est ça le plus important.
Ouais.
Et d'être le plus juste possible et de s'assumer. Faut tout, à partir du moment où on assume tout, déjà, on a gagné une bonne partie du chemin. Mais ouais, je pense de savoir se structurer, c'est hyper important.
Mais quand tu dis te structurer...
Après, on appelle ça du contouring. Ça me fait un peu rire, le truc du contouring, parce que c'est évidemment lié à la famille Kardashian.
C'est ça. Les Américaines.
Mais ça existe depuis... Enfin, Marilyn Monroe, longtemps. Elle faisait du contouring, clairement. À partir du moment où on cache des cernes, on creuse des endroits, on met du blush, etc., on structure, on creuse et on module, donc on fait du contouring.
Donc toi, tu en fais beaucoup sur les plateaux ?
Après, ça dépend des films. Parce que chaque film a sa particularité et on crée un personnage. Donc si c'est pas nécessaire... Enfin, par exemple, une femme qui va jouer une caissière d'un milieu populaire, etc., on ne va pas lui faire du contouring. Il faut que c'est du sens. Après, si on fait de la beauté, et on fait une diva, oui, en effet, on va lui faire du contouring. Et après, ça dépend. Le contouring peut être utilisé à l'inverse pour créer d'autres volumes et d'autres personnages. Et ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, j'ai travaillé sur Dalida. Alors, ce n'est pas moi qui maquillais l'actrice principale, mais sur Dalida, elle a modifié tous ses volumes. C'est Katch Van Damme, donc la chef maquilleuse. Elle a modifié tous ses volumes entre les années 50 et les années 80. Et évidemment, à 45 ans, elle n'a pas du tout la même tête qu'à 20 ans. Quoi. Et donc, elle a utilisé... C'est que du trompe-l'œil tout le temps. Et c'est fascinant à créer et à trouver.
Tu maquilles des personnes ou des acteurs tous les jours. Est-ce que toi, alors, tu as toujours envie de te maquiller ? Je vois qu'aujourd'hui, oui, mais...
Alors moi, je suis une des seules maquilleuses de cinéma à se maquiller.
Donc, je me disais bien qu'elle est maquilleuse de cinéma, elle ne se maquille pas plus que ça.
Elle ne se maquille pas quasiment pas du tout, c'est très rare. Et je suis une exception.
Alors pourquoi ?
Je me suis toujours maquillée. Enfin, c'est comme ça en fait.
Tu aimes te maquiller ?
Ouais, depuis que j'ai 15 ans, je me suis toujours maquillée. Mes sœurs se maquillent, je ne sais pas, il y a une espèce de filiation. C'est mes grandes sœurs, elles se maquillent, je me maquille. Quoi.
Et du coup, c'est quoi ton maquillage de tous les jours ?
Ça veut dire quoi ?
Qu'est-ce que tu mets ? Eyeliner, poudre
Tes
bases de maquillage, vraiment ta routine make-up.
C'est le blush, évidemment.
Ouais.
Et les cernes, parce que pour le coup, je suis très, très, très cernée.
D'accord, anti-cernes ?
Ouais, anti-cernes. Ça, c'est obligé.
Obligé, ouais.
Et si je ne mets pas d'anti-cernes, je ne me maquille pas du tout.
D'accord. Excellent. Tu ne sortirais pas sans anti-cernes ?
Je ne sortirais pas sans blush. Parce que le blush peut tricher des cernes.
Oui, le blush a l'air d'être vraiment la
priorité. Parce que quand on met un blush, même si on a des cernes, si on met un blush, ça ravive tout de suite. Donc déjà, par opposition, ça éclaircit.
D'accord.
Donc ça, c'est comme ça qu'on triche. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le maquillage, c'est qu'il y a faut connaître toute la colorimétrie. Et c'est passionnant parce que en inversant les choses, on arrive à avoir d'autres résultats.
Je pourrais parler maquillage comme ça pendant des heures avec toi, mais on s'est dit que ce podcast ferait que 30 minutes. Donc, on passe à la question suivante. Le produit de soin que tu utilises le plus, alors pas maquillage, le soin, donc soin visage.
Je peux citer une marque ?
Ah oui, oui. En fait, ici, on a le droit de citer toutes les marques.
D'accord. J'ai découvert, il y a peu de temps, Absolution.
Absolution,
c'est une marque de cosmétiques bio. Et vraiment, c'est incroyable, ça marche très 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 bien.
D'accord, et c'est fait quoi ?
L'huile notamment, qui va à toutes les peaux. Enfin, sauf les peaux très grasses, c'est de l'huile, mais... c'est très 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 raffermissant et... Et par exemple, la base contrôle qu'on met en dessous de l'huile, qui est justement pour les peaux un peu acnéiques ou pour les peaux quand on a nos règles. On peut dire ça ?
Oui, ouais. Allez. Hein.
Enfin, voilà. Enfin, en même temps, c'est des problèmes qu'on a.
Oui, voilà, c'est des vrais problèmes et c'est vrai que...
Enfin, voilà, où on
la
a
peau change pendant cette période.
Non, mais c'est vrai, hormonalement, on vit des variations constamment. Quoi.
Que et... vous, les hommes, ne connaissez pas.
Non. Enfin, si, mais après. Et
c'est un peu plus tard.
Et ça régule hyper bien, justement. Enfin, vraiment, c'est une super belle marque. Et sinon, j'ai quand même pour habitude de travailler avec Dr. Oshka en cosmétique.
Qui est une belle marque.
Qui est une très, très belle marque aussi. Ouais.
Est-ce que tu as un super souvenir en tant que maquilleuse cinéma ? Alors, pas forcément dans la beauté, mais ton plus beau souvenir ?
Très honnêtement, les plus beaux souvenirs que j'ai de cinéma, c'est les voyages que ça amène.
Ouais. Et parce que tu voyages beaucoup, juste on a oublié de dire, c'est que tu pouvais partir pendant des semaines sur un tournage. Hein, tu restes vraiment avec l'équipe pendant un mois.
Un peu plus, oui.
Même un peu plus.
Oui, oui, j'ai vécu à Londres pendant quelques mois grâce à un tournage. Enfin, voilà, et les endroits, même dans Paris, j'ai vu des choses auxquelles j'aurais jamais eu accès autrement. J'ai vu le lac qui est en dessous de l'Opéra Garnier. Ouais. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles on n'a pas du tout accès si je faisais un autre métier. Et de voir les coulisses, des coulisses de certains endroits, c'est quand même complètement dingue. Et je suis payée pour faire ça, quoi. Ouais. Donc c'est un luxe incroyable. Ou de faire du bateau pendant 3 semaines à Marseille. Oui, moi je le vis vraiment comme un luxe et une chance dingue parce que ouais, j'y ai pas accès autrement.
Donc des rencontres, des lieux, rencontres.
C'est des rencontres évidemment, mais c'est surtout des lieux en fait. Je me rends compte que je suis beaucoup plus hallucinée par des endroits et par des expériences humaines évidemment. Ouais. Mais il y a vraiment des endroits qui m'ont complètement subjuguée vraiment quoi.
Et donc, vu que ça fait 15 ans que tu fais du cinéma, tu m'as dit ?
Ouais.
Est-ce qu'il y a une personne qui t'a vraiment marqué, donc que ce soit une comédienne, une réalisatrice, enfin la personne qui t'a le plus marqué, mais positivement, je veux dire. Ouais. Pas négativement, parce que ça doit exister.
Je n'allais pas dire.
Qui t'a le plus touché, ouais.
Après, c'est très intime, parce qu'il y a des gens qui vous touchent... Évidemment, Sylvie Vered reste pour moi une des plus grandes réalisatrices en France en ce moment. Et depuis 15 ans ou 20 ans, c'est quelqu'un qui me touche profondément. Après, il y a des actrices qui me touchent aussi énormément. Et de rencontrer Emir Kusturica, c'est assez incroyable. De rencontrer Willem Dafoe, pour moi, c'est incroyable. Après, c'est lié à ce que je suis moi et à ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Donc d'avoir vu Sailor et Lula quand j'étais ado... Et de me retrouver face à Willem Dafoe, c'est pour moi très impressionnant. J'imagine que pour d'autres, ça l'est beaucoup moins.
Ouais.
Mais voilà, après, c'est des expériences de vie qui se rencontrent et qui s'échangent. Mais oui, c'est sûr que c'est passionnant de travailler avec ces gens-là.
T'as appris beaucoup de choses avec eux.
Ah ouais, complètement,
Et la plus belle femme que tu aies maquillée ?
Elle est dure, cette question.
Elle est dure. Alors, tu peux en citer deux, si tu veux.
Non, vraiment, la plus belle femme que j'ai pu maquiller, je pense que c'est Aïssa Maïga.
Ah oui. Oui, je vois qui c'est.
Parce que peu importe ce qu'on met, ça marche.
Ouais. Elle n'a même pas besoin d'être maquillée, finalement. Presque.
Non, on pourrait dire ça. Après... Ouais. Non, franchement, très honnêtement, on peut mettre n'importe quoi, ça fonctionne.
Ouais.
Elle est vraiment très, 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 très belle.
Ouais. Et une autre ?
Vraiment très très belle. Afsia Herzi.
Ah, ça ne me dit rien.
Qui jouait dans La Graine et le Mulet.
Ah oui, ok. Ouais.
Et j'ai fait un film avec elle justement à Londres. Et c'était passionnant parce que le personnage à créer était vraiment vraiment à travailler. Enfin, il y avait beaucoup beaucoup de travail à créer avec elle, etc. Qu'elle m'a déjà laissé libre de faire ce que j'avais envie de faire, avec son accord évidemment, mais j'ai vraiment pu aller au bout de ce que j'avais en tête et des références que j'avais en tête avec Sylvie, la réalisatrice. Et il y a vraiment des scènes où je la regardais en me disant c'est complètement incroyable à quel point elle est belle.
Ouais.
Donc voilà, c'est des jours comme ça.
Ok. Et un homme ?
Un homme très très beau.
Parce qu'on parle que de femme, mais on peut dire un homme.
Ouais, c'est vrai.
Un acteur.
Ah, je sais pas, un homme très beau, peut-être Omar Sy, mais on le maquille pas parce que.
Ah, il est beau, ouais.
Parce que sa peau est parfaite, mais.
Ta dernière découverte make-up, est-ce que tu en as une ?
Je crois
que tu as utilisé ou que tu as acheté cette année.
Non, après, moi, je reste très, très fan des multiples de NARS.
NARS.
Voilà. Ouais. Je trouve que ça marche très bien. Ça marche très bien et sur beaucoup de gens. Et que ça passe partout. Après, comme chaque projet est différent, ça dépend des enjeux du film. Il y a par exemple, le film qu'on a fait cet été avec Stéphanie Guillon, qui est une autre maquilleuse. Les filles étaient un peu trop entre guillemets belles par rapport au personnage, ouais. Donc on a pris le parti de pas faire leur teint et de maquiller que leurs yeux et leur bouche pour les entre guillemets les abîmer un peu.
D'accord.
Donc ça dépend. En fait, à chaque film, on va chercher le maquillage des produits qui correspondent à ce qu'on attend du personnage.
Ouais.
Et en fait, nous, notre référence, ça restera toujours un personnage et pas la comédienne ou le comédien. Après, il y a beaucoup de comédiennes qui se connaissent très bien et qui nous apprennent aussi plein de choses et qui nous font découvrir plein de choses parce qu'elles connaissent tel et tel produit qui leur vont parfaitement, etc.
Ouais,
etc.
Ouais. Si tu as besoin d'avoir un rouge à lèvres qui tient longtemps, est-ce que aussi tu as une marque pour un rouge à lèvres mat qui va durer des heures ?
Chez Estée Lauder, ils en ont qui tiennent assez bien.
D'accord.
Après, comme toutes les femmes qui utilisent des rouges à lèvres mat, elles ont toutes constaté que ça finit par craqueler.
Ouais.
Et sinon, il y a une technique qui marche assez bien, c'est de poser son rouge à lèvres, pas forcément mat, de le poudrer et de remettre du rouge à lèvres par-dessus.
Alors attends, redis, tu mets du rouge à lèvres,
vous
tu
mettez
poudres.
Votre rouge à lèvres, on poudre et on remet une couche de rouge à lèvres.
D'accord.
Ça marche bien.
Ça marche bien.
Ouais.
D'accord, une poudre lambda, Laura
une
Mercier.
Poudre libre, peu importe.
Ouais, okay.
Bah, plutôt transparente pour pas avoir de modification de couleur, mais voilà.
D'accord. Tu as choisi une chanson.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, tu peux nous dire quelle chanson c'est ?
C'est Meilleur Hawthorne, qui est un musicien de R&B, quoi. Et le morceau s'appelle Green Eyed Love.
Voilà. Alors, on va l'écouter.
My love, my green-eyed love, we'll watch the clouds from above. Come on, lift me up, my love, my velvet robe.
C'est une chanson qui fait partie de mon histoire avec mon copain, quoi. Et en fait, quand on s'est mis ensemble, c'est une chanson qui passait à la radio, et il m'a dit « Ah, mais c'est toi ». Donc bêtement, voilà, c'est moi.
C'est toi.
Et voilà, c'est sur une histoire d'amour, et etc. Et je crois que ça me correspond assez bien sur mes enjeux de vie et sur mes volontés de vie.
D'accord. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais tu as rencontré en plus ton ami dans le milieu du cinéma aussi, hein.
Ouais, il est dans le documentaire, mais c'est pas très loin.
Ouais. On parlait maquillage au début, juste avant la chanson. Est-ce que toi aussi, tu vas sortir ta marque de maquillage un jour, comme Kat Von D?
Alors, si la référence est Kat Von D, ça me pose un vrai problème, évidemment. Parce que d'une part, elle n'est pas maquilleuse, elle est tatoueuse.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle a commencé en tant que tatoueuse.
Ouais, elle est tatoueuse, elle n'est pas maquilleuse.
Ouais, ouais.
Après, si on parle de Laura Mercier ou de Bobby Brown, je trouve qu'elles ont vraiment apporté quelque chose dans le maquillage et merci beaucoup, enfin, vraiment, de tout ce qu'elles ont pu apporter, la justesse de leurs produits et la diversité surtout des teintes. Parce que autant Bobby Brown que Laura Mercier, par exemple, vont du très très clair au très foncé et que tout est juste. Donc voilà, ça c'est super. Après, Kat Von D, pour moi, c'est du marketing, quoi.
T'as essayé son maquillage ou pas du tout ?
Oui, j'ai vu, mais c'est du marketing.
Mais tu m'as dit d'ailleurs que tu aimais beaucoup la marque Laura Mercier, hein, juste avant.
Oui, absolument.
Donc Beverly, si tu nous écoutes, parce qu'il y a eu un podcast sur Beverly qui est en charge de la marque Laura Mercier en France.
Bah, très très fan, j'ai tout. je pense.
Beverly, bah, tu pourras contacter Emma.
Avec joie.
Pour toi, c'est quoi la chose que les filles doivent arrêter niveau make-up à tout
de
prix.
Trop en mettre.
C'est-à-dire?
Bah, pour le coup, là, on est arrivé à l'ère du maquillage où c'est tout le monde, enfin beaucoup de femmes et d'hommes se maquillent. Et c'est trop.
Tu vois beaucoup de filles qui sont trop maquillées dans la rue. Déjà,
elles sont toutes oranges. C'est beaucoup trop. Elles ont toutes les sourcils hyper faits, toutes les yeux hyper faits. Tout est trop faux.
Ouais, il y en a trop. Et pourtant, on dit que les Parisiennes se maquillent moins que les Anglaises, par exemple.
Moins que les Anglaises. Je sais pas si c'est vrai encore maintenant. Hein.
Ouais.
Mais oui, quand je prends... Enfin, je parle de la jeunesse. Hein. Évidemment, chacun... Enfin, les femmes qui sont de 40 ou 50 ans... restent les mêmes qu'il y a 10 ans.
Ouais.
Mais la plupart, je trouve que la jeunesse se maquille trop. Et mal.
On parlait de jeunesse. Qu'est-ce que tu penses de la génération youtubeuse beauté? Alors, tu m'as dit juste avant que ça allait pas être une réponse simple.
Je trouve que les youtubeuses, en l'occurrence, c'est pas des maquilleuses, quoi. Et en plus, c'est des produits de marketing. À partir du moment où on leur envoie des produits pour vendre des produits, je vois pas à quel moment elles sont objectives sur les produits. Et en plus, ça reste quand même dans leur salon ou leur chambre. Et moi, mon métier, c'est de maquiller des gens, pas de me maquiller moi. Donc, tel ou tel produit, de vendre tel ou tel produit, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. D'une part, parce qu'elles sont achetées par la marque. Et d'autre part, parce qu'elles y connaissent rien, à part sur leur visage, elles, et c'est pas parce que ça leur convient à elles que ça convient à d'autres.
On parlait plateau cinéma, quand est-ce que tu m'invites sur un plateau ciné?
Quand tu veux.
J'ai envie de te voir maquiller une actrice.
Tu viens quand tu veux.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Bon, d'accord. Est-ce que tu as une devise, Emma, ou plutôt quelque chose à rajouter, parce que ce sont les derniers mots de ce podcast?
Je suis très heureuse de pouvoir discuter de maquillage de cinéma, d'une part parce qu'on n'est pas reconnus, enfin peu reconnus. Et parce que l'idée que les gens en ont, que je comprends parfaitement, c'est qu'on met du fond de teint et du rouge à lèvres à des gens. Et de créer des personnages, c'est un vrai travail. Ça nous demande vraiment du temps et c'est passionnant. Mais avant de commencer à maquiller, on va d'abord faire de la recherche. On va d'abord choisir au moins une trentaine de références pour chaque personnage qui est vu et avec le comédien et avec le réalisateur et avec les costumes et avec la coiffure. Tout le monde travaille ensemble pour pouvoir créer le personnage qui correspond le mieux au scénario qu'on a lu, et non pas au comédien avec qui on travaille, mais vraiment à un personnage. Et on travaille à créer quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est passionnant, mais c'est du travail, et ça demande vraiment du temps, et d'y réfléchir vraiment, et c'est pour ça qu'on réussit ou pas, et qu'on réussit dans certains domaines ou pas dans ce milieu. C'est vraiment une question de sensibilité, et on amène aussi notre sensibilité. Et évidemment, la sensibilité, ça va avec l'artistique. Et on amène notre main et notre côté artistique pour créer un personnage qui correspond au mieux de ce que le réalisateur veut. Et ça, c'est très, très, très... Enfin, voilà, je suis très contente de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler, parce que personne ne le sait.
Au nom de toutes les maquilleuses, Emma.
Et maquilleurs.
Et maquilleurs.
Voilà.
Ouais. Et j'ai une autre question, j'ai oublié de te poser, mais comment du coup tu achètes toi-même tous les produits que tu dois utiliser? C'est le film qui te donne les produits, comment ça se passe?
Alors sur un film, on a un budget,
Donc budget maquillage?
Ouais, absolument. Chaque poste a un budget.
D'accord.
Et après, maintenant, on travaille avec des marques.
D'accord.
Donc on est sponsorisé par des marques pour des films, et en échange, ils apparaissent au générique ou on fait du placement de produits s'il y a des scènes d'appartement, etc.
D'accord.
Mais ça, c'est vraiment, c'est important de le dire, c'est vraiment la dernière chose qu'on fait, c'est de démarcher des marques. On démarche des marques par rapport à ce qu'on crée comme personnage et pas l'inverse, en fait.
Oui.
Et selon les films, on va plutôt se tourner vers telle marque ou telle marque parce que c'est plus d'à propos.
D'accord. Et ça, c'est la maquilleuse qui choisit la marque ou c'est le... Enfin, c'est vraiment vous?
C'est nous qui choisissons les marques avec lesquelles on veut travailler. Après, ça dépend si les marques ont envie de travailler avec nous, évidemment. Et c'est aussi certains comédiens, plutôt des comédiennes, a priori. S'il y a des comédiennes qui veulent travailler avec certaines marques, on les suit aussi.
Ouais.
Et nous, c'est aussi comme ça qu'on découvre des produits. Parce que, évidemment, comme tout le monde, on a plutôt tendance à aller dans notre petit confort et rester chez Laura Mercier, par exemple.
Beverly
exclusivement. Non, mais voilà, c'est à ça que ça sert. C'est que ça nous amène aussi d'autres produits, de découvrir d'autres choses. D'autres cosmétiques, d'autres maquillages.
Oui, c'est vrai que les actrices testent tellement de produits qu'à la fin, elles connaissent leur produit préféré aussi.
Oui, elles ont leur routine. Après, c'est normal. Et il y a des fonds de teint qui correspondent beaucoup mieux à tel type de film. Et ce qui est très important aussi, c'est la pellicule. Enfin, pas la pellicule, parce qu'on tourne plus en pellicule, mais avec quelle caméra on tourne. Mmh. Donc nous aussi, on doit avoir aussi connaissance de la lumière, de savoir comment le chef opérateur va éclairer nos comédiens. Ouais. Et est-ce que ça fonctionne. En fait, le but, c'est que tout fonctionne pour le film. Ouais. Et on travaille tous pour ça.
Et imagine si c'était un temps comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'a pas arrêté de neiger. Je suis arrivée avec la neige chez Emma. Donc voilà. Écoute, Emma, le podcast se termine. Est-ce que ça a été?
Ouais, super. Parfait.
Tu vois, ça s'est bien passé. Ouais, c'était rapide.
Non, tout va bien.
Bah écoute, à la prochaine fois sur un plateau alors.
Avec joie.
Et tu diras bonjour à Stéphanie de ma part. Merci Stéphanie, encore une fois, de nous avoir mis en relation toutes les deux. C'était hyper sympa. Chouette. Merci beaucoup.
Je t'en prie. My love, my green-eyed love, we'll watch the clouds from above. Come on, lift me up, my love, my.